Je vous invite à suivre votre émission en dialogue entre Congolais avec Hélène Rondelle à la présentation.
Bonsoir. Lors de la présentation du projet de budget 2011 hier devant les députés nationaux, le Premier ministre a dressé le bilan de l'exécution du budget 2010 au premier semestre. Sur le plan social, Adolphe Mouzito a cité notamment l'augmentation légère des salaires dans l'armée et l'allocation des frais de fonctionnement aux écoles publiques ciblées pour atteindre la gratuité de l'enseignement primaire. Comment analyser l'évaluation faite par le Premier ministre sur les plans socio-économiques et sécuritaires? Trois invités participent à cette émission. Marc Onvoama Amedou, député national Palou, élu de la ville de Kikwito Bandundu, les membres de la commission de relations extérieures à l'Assemblée nationale. Honorable Onvoama, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Lajos Bidiou, député national MLC, élu de la ville de Matadio-Bakongo, il est membre de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Honorable Bidiou, bonsoir.
Bonsoir.
Joseph Congolo, analyste politique. Monsieur Congolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, nous les avons comme d'habitude. Jacques Kinshasa. Le Premier ministre Mouzito a parlé du vécu quotidien de la population, alors que pendant 4 ans, le social, l'éducation se dégrade à une vitesse inexplicable. Nous leur fixons rendez-vous en 2011. Imurani Sapro de Kindo Maniema, je suis content que le Premier ministre se soit appesanti sur l'exécution du budget 2010. Malheureusement, nous avons constaté que les aspects positifs qu'il évoque le sont sur papier. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le Premier ministre a présenté ce lundi le projet de budget 2011 à l'Assemblée nationale. Mais avant, Adolphe Mouzito a retracé brièvement les objectifs du gouvernement au courant de l'année 2010, les actions ayant marqué l'exécution du budget en cours, ainsi que les résultats atteints à ce jour. Il a à cet effet rappelé que son gouvernement, de par sa vocation de gouvernement de mission, s'est fixé sous l'impulsion du chef de l'exécutif trois tâches essentielles, à savoir la refondation de l'État, bâtir l'économie et l'amélioration des conditions de vie des populations. On écoute le Premier ministre Adolphe Mouzito qui s'exprime sur les réalisations de son gouvernement sur le plan socio-éducatif au 31 2010.
Les acquis de 2010 que votre gouvernement entend consolider ne concernent pas seulement les réalisations en matière d'infrastructures, de l'économie et des finances. Ils concernent aussi des réalisations remarquables au plan social, notamment l'augmentation légère des salaires dans l'armée à partir d'avril 2010 avec un impact annuel de 3 milliards de dollars, la régularisation de la situation salariale des effectifs rejeté lors du recensement de 2005 après examen des recours formulés par les agents concernés. La signature d'un protocole d'accord avec les professeurs d'université accordant une augmentation anticipée de leur salaire avec un impact mensuel de 644 millions de dollars. L'exécution des transferts des fonds au profit des ambassades et missions diplomatiques au titre des fonctionnements et des émoluments des diplomates de l'ordre de l'équivalent de 2 millions de dollars. La distribution d'une centaine de titres de forage d'eau pour nos provinces par l'entremise du ministre du Développement Rural sur un crédit de 25 millions de dollars. S'agissant de l'amélioration du taux d'accès à l'éducation des bases, l'objectif a consisté à réduire progressivement les frais de scolarité à charge des parents avant d'atteindre la gratuité de l'enseignement primaire. Pour ce faire, les actions suivantes ont été menées. L'allocation des frais de fonctionnement aux écoles publiques ciblées, singulièrement les écoles primaires en priorité. Simultanément, donc, un montant de 8 millions de dollars est débloqué pour 26 000 écoles publiques. La prise en charge des frais d'assurance scolaire pour tous les élèves du primaire du secteur public. La décentralisation de la fixation des frais de scolarité au niveau des gouverneurs de province en vue de prendre en compte les réalités socio-économiques de chaque entité.
Honorable Marc Onvoama, vous venez de suivre le Premier ministre, Adolphe Mouzito, qui s'exprimait sur les plans social et éducationnel. Quelle est votre analyse à vous par rapport à l'évaluation qu'il a présentée?
C'est un constat que je fais, selon lequel le gouvernement actuel essaye de satisfaire un peu, soit-il, besoins de la population. Mais le problème pour moi, c'est un problème très, très, très profond. De quoi s'agit-il? Pourquoi le Premier ministre dit-il, nous avons essayé de résoudre certains problèmes au niveau social, on a augmenté ceci, on a... Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'État congolais se présente, la République de la RDC se présente comme un pays qui a immergé, qui doit être remonté du fond de l'océan. Le mal est très très profond. Et moi, ça m'a fait pitié lorsque les gens ne se rendent pas compte qu'au fond, quel que soit le gouvernement qui viendra, quels que soient les acquis que nous avons maintenant, nous sommes tombés très très profondément dans le fond. Donc, je constate que le gouvernement fait des efforts, effectivement, c'est à reconnaître. Vous comprenez? C'est quelque chose de réaliste. Peut-être qu'on pourra dire, mais ce n'est rien, qu'est-ce que ça représente? Je dis que ça représente quelque chose, mais le mal est très très profond. Le Congo doit se rééduquer. Le Congo doit penser à une nouvelle génération de conscience. Le Congo doit faire en sorte qu'il y ait, j'allais dire, une révolution, mais une révolution de mentalité.
Honorable Mvama, à vous comprendre, je présume que vous étiez en vacances parlementaires, vous êtes élu de la ville de Kikwit au Bandundu. Est-ce que vos élus de Kikwit peuvent confirmer qu'ils ont palpé du doigt les réalisations de ce projet du budget 2010 au premier semestre tel que présenté par le Premier ministre, concrètement?
Là, vous me prenez sur le revers. Concernant les réalisations, concernant le budget, eh bien, vous le savez qu'hier je suis intervenu. Je suis intervenu pour dire que je félicitais le gouvernement, le Premier ministre, pour avoir présenté un budget qui est supérieur par rapport à tout ce que nous avons connu. Et que de ce point de vue, il n'y aura pas un gouvernement qui pourra se permettre de venir présenter un budget inférieur par rapport à celui-ci. Donc, nous faisons de la progression. Je l'ai félicité, et je l'ai félicité également dans ce sens que dès le départ, il a dit qu'il venait humblement demander à l'Assemblée d'accepter, de bien vouloir accepter ce budget et de l'améliorer. Vous comprenez, ce n'est pas une affaire du gouvernement congolais, c'est une affaire des Congolais, représentés par l'exécutif et représentés par ce qu'on appelle la représentation nationale, c'est-à-dire les députés. Le budget qui a été, le budget dont nous disposons, c'est un budget de l'État congolais. Et alors, j'ai ajouté ceci. Dans le cadre du complément, je fais remarquer que la ville de Tipis est taillée en pièces.
Honorable Mbama.
D'année en année.
Honorable Mvama, merci de nous rappeler les prémices de votre intervention hier à l'Assemblée nationale, mais est-ce que vous pouvez revenir sur le concret par rapport au bilan présenté par le Premier ministre sur le plan social?
C'est dans ce bilan-là que nous sommes. Le bilan est que nous sommes en train de colmater les brèches, si vous voulez. J'ai dit que le pays a immergé. Vous comprenez? Le pays a émergé. Comment voulez-vous qu'une ville comme Kikwit, d'année en année, soit taillée en pièces par des érosions et que actuellement le budget n'est pas pensé à colmater, n'est pas pensé à prendre des mesures pour combattre ces érosions?
Merci.
Vous comprenez? Et donc, il n'y a pas que cela. Par exemple, nous avons eu des projets, on a signé le protocole d'accord pour que on construise les barrages sur Titona. Je parle bien de la province de Bandundu et de ma circonscription de Kikwit. Qu'on construise les barrages à Titona et à Mapigi et à Kifuki. Le protocole d'accord a été signé. Mais jusqu'ici, nos partenaires continuent à attendre la part du gouvernement. Qu'on paye pour que qu'on paye la première tranche pour que les travaux se fassent. Sinon, nous n'avons pas payé et nous en sommes maintenant à payer les pénalités. Nous devons payer une sorte d'amende.
Merci, honorable.
Donc, ce sont des choses que nous évoquons.
Merci, honorable. Permettez que nous arrêtions à ce niveau.
Que ce soit les difficultés, nous faisons ce que nous pouvons, mais c'est comme si c'était insignifiant.
Merci, honorable.
Ça serait contradictoire. Ce n'est pas insignifiant. Mais nous sommes immergés.
Merci, merci honorable. On vous garde tout au long de cette émission, honorable Lajos Bidiou. Quelle est votre analyse à vous? Le Premier ministre a présenté son bilan de l'exécution du budget 2010 au premier semestre. Quelle est votre analyse?
Écoutez, merci. De plus, quel est le bilan qu'on peut... Quelle analyse qu'on peut faire sur le bilan fait par le Premier ministre chef du gouvernement? Déjà par sa façon de parler lui-même, dit nous avons essayé. Un gouvernement n'essaye pas. Un gouvernement applique. Un gouvernement qui est un gouvernement déterminé, volontaire, applique son programme gouvernemental. On ne peut pas dire que peuple, nous avons essayé. D'ailleurs, la réalité aurait été que le Premier ministre puisse purement tout simplement venir dire bon écoute, c'est démissionné parce que je n'ai pas pu et non pas essayé. Donc, lorsque nous entendons le gouvernement dire, nous avons essayé de faire en sorte que la police, l'armée, l'enseignement, qu'on puisse essayer d'améliorer la situation. La situation n'a pas changé. Pourquoi la situation n'a pas changé? Parce que s'il a essayé de faire tout ce que mais par rapport à la dépression, à la dégradation de la situation sociale, mais il n'y a pas de commune mesure. Et vous vous souviendrez d'ailleurs, lorsque nous avons voté le budget, nous avons dit, et le gouvernement a été d'accord, c'était ça le budget, c'est une loi. Nous avons dit qu'il fallait uniformiser les salaires et qu'il fallait mettre fin aux zones salariales. Mais aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Qu'est-ce qu'on ajoute à un enseignant de Matadi, de Kisangani, de Bulungu, de Mbandaka?
Aux militaires même.
Aux militaires ou aux policiers. Les licenciés, on lui ajoute 15 000 francs. Est-ce que vous êtes sûr que les prix ont augmenté avec la même vitesse que l'ajout qui vient d'être fait? Non, enfin, on est en train de rigoler. On est en train de faire un peu du n'importe quoi, je dirais même du sur place. Ça veut dire que le Premier ministre et le gouvernement n'ont pas avancé.
Mais vous avez suivi l'honorable Marc Nvama qui n'a cessé de rappeler que le mal est profond et tout ce qu'on fait paraît comme si on ne faisait rien tellement le mal est profond.
Écoutez, je salue mon collègue parce que c'est un collègue et un membre du même parti que le Premier ministre. Vous avez compris avec quelle difficulté il a essayé de parler. Le mal est profond, mais c'est justement pour ça que le gouvernement est là. C'est pour sortir le peuple congolais de ce mal profond. Mais si le gouvernement constate qu'il est impuissant parce que le mal est profond, et qu'il laisse à d'autres qui peuvent ramener le Congolais le plus rapidement possible à la surface. C'est ça le gros problème. Nous l'avons toujours dit, lorsque le gouvernement est venu devant nous, devant l'Assemblée nationale, pour présenter son programme gouvernemental, nous avons dit qu'avec ce programme gouvernemental, avec le budget, parce que le budget c'est le programme du gouvernement, présenté en chiffres et de façon annuelle. Nous avons dit qu'avec ce budget qu'on nous a présenté, même si on est en train de dire que le budget n'a fait que croître, mais si le budget est en train de croître et que la situation de vie du peuple congolais ne fait que se déprécier le jour, si la pauvreté devient un peu comme pour le cancer qui fait la métastase, c'est-à-dire qu'aucune couche sociale n'est plus à l'abri de la misère de la pauvreté, On ne peut pas continuer à bomber les torses pour dire que le budget a augmenté. Le Congo ne vaut pas un budget de 4 milliards. Le Congo vaut un budget de 20 milliards. Mais c'est la promesse du gouvernement dans la mobilisation des recettes qui fait que nous puissions avoir un budget qui ne soit pas un budget capable de relever les défis que pose notre pays.
Honorable Bidiou, le Premier ministre a évoqué sur le plan de l'éducation la gratuité de l'enseignement. Dans votre tiers électoral, comment ça se passe la gratuité?
Mais, la gratuité de l'enseignement, c'est vrai, on en parle. C'est à titre d'essai d'ailleurs, je peux dire, parce que le premier ministre lui-même dit j'essaye. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de gratuité, mais quelle est la situation des enseignants? Quelle est la situation des enseignants? Aujourd'hui, l'enseignant n'a même plus la possibilité qu'il avait hier. Donc, cette gratuité ne vient pas résoudre réellement le problème de l'enseignement primaire, cela s'entend, et même de l'enseignement secondaire. Elle vient, au contraire, compliquer davantage. Et si vous voyez très bien, déjà je pense qu'hier, au niveau de la ville de Matadi, qui est mon fief électoral, on ne peut pas dire qu'il y a eu réellement des cours qui ont été organisés comme d'habitude. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être réglées. On ne peut pas continuer à régler les choses au cas par cas, au coup par coup. Non, il faut que les choses soient réglées de façon durable et de façon réelle.
Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique, vous avez suivi les deux députés nationaux. On est presque dans la théorie du verre à moitié plein, à moitié vide.
Oui, évidemment, chacun tente de défendre la position de son parti. Mais dans leur déclaration, il y a quand même des éléments positifs. Ce qui est vrai, c'est que dans le discours du Premier ministre, il a parlé du social, mais en réalité, le social, à mon avis, ne peut pas s'apprécier par rapport à des éléments aussi simples, comme les exprimer lui-même, une augmentation légère, n'est-ce pas ? Réduire progressivement les frais de scolarité. Je crois que ne fût qu'au niveau de l'énoncé des éléments qui fondent l'argumentation du Premier ministre, le social ne ressort pas. C'est-à-dire que ça n'a pas un impact social, ce n'est pas visible pour qu'on puisse parler effectivement du social. Donc c'est tellement superficiel que le social lui-même est plus profond. Alors, ce que j'ai compris, c'est que on passe des mal qui est très profond, un mal social profond, mais moi je crois plutôt que le mal n'est pas dans le social, mais le mal c'est plutôt, si vous voulez, un mal systémique. Nous évoluons dans un système où pratiquement les qualités, ou si vous voulez, les éminences grises, se consument, c'est-à-dire ne produisent pas les effets, mais par contre ça s'annule dans ce système. Et le mal, il est plus systémique. Il est plus systémique, ce qui fait que les actions, l'ensemble de l'action gouvernementale semble n'est pas sorti des effets, n'est pas être palpable, n'est pas être visible sur la population, et bien que sur papier et dans le titre, nous semblons écouter et voir quelque chose. Vous voyez ? Alors, le mal, il est au niveau du système, qui n'a pas des politiques cohérentes qui puissent arriver à orienter, à mobiliser les gens vers des politiques sociales concrètes et cohérentes. Et là, c'est un défaut majeur.
Alors, il y a cet auditeur, Sylvain Banza Soumbour, qui est en bougement au Kassai-Oriental, qui dit ceci, Joseph Kongolo, pourquoi cette controverse des budgets de l'État 2009 ou 2010 augmente en chiffres et la misère de la population augmente aussi. Le social de la population ne fait que se dégrader. Cela cesse de se moquer de la population. On a là une forme de contradiction entre le discours du politique et les réalités sur terre. Je l'ai dit tout à l'heure, le mal il est systémique, à tel point que tout ce qu'on peut, toutes les qualités, les éminences grises, des gens qui ont fait des preuves ailleurs, dans des institutions internationales, quand ils arrivent dans le système politique congolais, ils se consument, ils se réduisent à zéro, c'est-à-dire que il n'y a pas, à mon avis, des analyses profondes pour déceler le mal, faire une autopsie sévère de la situation congolaise et dégager des politiques cohérentes qui puissent impliquer tous, n'est-ce pas, dans les efforts de modernisation ou dans les efforts de développement. C'est pourquoi, d'ailleurs, on parle aujourd'hui de la gouvernance. Je crois que la gouvernance, c'est quoi? C'est juste une nouvelle façon de gérer la chose publique, de gérer des problèmes, en faisant participer au maximum les bénéficiaires et les décideurs. De cette manière-là, les évaluations sont plus faciles. Parce que nous, les bénéficiaires, nous savons évaluer, et les décideurs de même. Vous voyez ça? Alors, quand, entre le politique et le social, il y a des écarts, en ce moment-là, le langage devient difficile. La communication devient difficile. Alors, voilà.
Honorable Marc Ovama, l'honorable Bidiou a
Vous l'avez suivi, hein, dit qu'il n'y a rien, presque rien qui a été fait. Et Joseph Kongolo souligne que le Premier ministre est presque tombé dans son piège à travers sa rhétorique.
Écoutez, personne ne m'a contredit. Personne. J'ai dit que le mal est profond. J'ai dit que quel que soit le gouvernement, il n'y a pas de miracle à espérer. Il n'y a pas de miracle à faire. Les économistes, les juristes, les financiers le savent. Il n'y a pas de miracle à faire. Le pays est tombé très profondément. Quel que soit le gouvernement, quelles que soient les mesures que vous prenez, si demain, pendant que vous prenez des mesures d'encadrement, il y a des gens qui puisent dans la caisse de l'État. Il y a des gens qui considèrent que le principe de tolérance zéro ne peut rien, ne vaut rien. Quel est le miracle que vous allez faire? Je dis bien, alors, faut-il que le Congo soit régenté? J'ai bien l'impression que de tout ce que nous sommes en train de dire, eh bien, on crie, écoutez, métropole Belgique, écoutez, Belgique avec vos alliés, venez nous régenter. C'est ça que les Congolais ne veulent pas dire exactement. Vous comprenez, la société est tombée au plus bas. Qu'est-ce que nous avons comme brin de conscience dans la tête des gens? Il n'y en a pas. Hein? Comment voulez-vous que... c'est quel type de conception que nous disions que tout s'annule. Les éminences grises deviennent impuissantes. Ça signifie qu'on ne m'a pas contredit. Il faut une révolution de mentalité. Il faut qu'il y ait une sorte de régenda. Nous le savons très bien. Comment est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui nous dire, eh bien, aujourd'hui, bon, nous avons pris telle mesure, ça va faire un bon, un pas de géant, ça va, tout va tourner comme, tout va tourner sur, comme par enchantement. Les routes, vous savez que pour construire un kilomètre de route, il vous faut autant de millions. Pour faire ceci, il vous faut autant de, l'argent, vous allez le puiser où? Lorsque vous construisez, il faut qu'on respecte la personne qui construit si demain est bien trouvé qu'on a creusé là où elle a construit.
Il y a du courage. Merci honorable, on a compris hein, que vous abondez pratiquement dans le même sens que Joseph Kongolo en parlant du problème de gouvernance. Nous allons, avant de donner la parole à l'honorable Bidiou, prendre ses questions d'auditeur.
Renan Ouabelo et Matali dans le Bas-Congo, que le Premier ministre revienne sur la planète Terre, car l'augmentation dont il fait allusion à l'Assemblée nationale est vouloir se moquer de la population congolaise qui prend jusque-là les manger comme un luxe. Omar Kavota, j'ai donc fait allusion à qui le fait réaliser seulement à Kinshasa ou sur la table du pays, car ici, à pays de l'Ordre qui est venu dessus, nous n'avons rien dit de cela.
Honorable Bidiou, cet auditeur Zéna Wabelo de Matadi du Bas-Congo demande au Premier ministre de revenir sur Terre.
Bon, écoutez, il a tout à fait raison parce que nous avons l'impression comme si le Premier ministre ne rend même plus visite à sa famille élargie. Parce que s'il rendait visite à sa famille élargie, il comprendrait que sa famille élargie est devenu plus pauvre qu'avant son entrée au gouvernement, avant qu'il ne prenne le règne du gouvernement. Comme le collègue Mbom était en train de dire, bon, là je ne suis pas d'accord avec lui, quel que soit le gouvernement, il n'y aura rien qui puisse changer dans ce pays. Et ça c'est grave. Ça c'est grave pour un parti qui gouverne. Ça voulait dire que le Congolais doit continuer à laisser le gouvernement en place jusqu'à l'éternité, parce que de toute façon, même si on changeait de gouvernement, les choses vont rester de la même manière telle qu'on nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Moi, je dis que le pays peut changer. Le pays peut changer si nous avons des hommes et des femmes qui sont décidés à apporter le changement. Si nous avons des hommes et des femmes qui sont décidés à voir l'intérêt général comme une priorité par rapport à l'intérêt individuel. Si nous avons des hommes et des femmes qui mettent de la rigueur dans la gestion. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que la corruption a pris une place importante au niveau de nos institutions. Et même qu'au niveau international, nous sommes bien cotés. On le vit des pays qui sont où la corruption a pris un espace important dans la vie. le détournement des deniers publics. Ce n'est plus un secret. Aucune entreprise publique ne marche. Je dis bien, aucune entreprise publique ne marche. Le gouvernement ne fait rien. On ne sanctionne pas. Aucune province ne se développe au sens strict du terme. Mais c'est comme si cela ne dérange pas le gouvernement. Quand je dis le gouvernement, ça veut dire que la majorité qui est en place. Parce qu'il faut quand même tirer les conclusions de la gestion, il faut quand même tirer les conclusions de ce que le peuple dit. Mais on fait semblant, on bouche les oreilles, comme si le peuple ne disait rien. Mais à qui profite cette croissance du budget? En tout cas, la croissance du budget ne profite pas à la population d'une manière générale. La croissance du budget est en train de profiter certainement à un certain nombre d'individus, comme la question posée par notre collègue Élisée Dumanza, en demandant au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre en lui-même constitue un chantier de la République, lorsqu'on voit le montant qui est prévu pour faire fonctionner la primature, alors que l'enseignement n'a pas eu suffisamment les moyens qu'il faut. Alors que les investissements, comment voulez-vous créer dans les richesses si les investissements, on ne tient même pas compte des investissements au niveau du pays. Comment voulez-vous donner réellement un coup de fouet à la consommation lorsque la dette publique intérieure n'est pas prise en compte par le gouvernement? Et sinon, lorsqu'on paye, alors, c'est juste un nombre restreint de ceux qui connaissent bien les mécanismes du ministère du budget des finances qui sont payés. Mais le reste ne bénéficie pas, le reste continue à attendre pendant 5 ans, pendant 10 ans, il n'est pas payé.
Joseph Kongolo, il y a cet internaute Yves de Kinshasa qui dit « Le Premier ministre nous a aidé à comprendre pourquoi beaucoup de gouverneurs ont eu des problèmes avec leurs assemblées provinciales, et simplement parce que le gouvernement central n'a pas libéré les budgets d'investissement, les 5 chantiers ne sont réels qu'à Kinshasa, il y aurait même des politiciens qui ont utilisé certains fonds destinés aux provinces pour commencer à préparer leur campagne. »
Nous l'avions dit tout à l'heure qu'il n'y a pas des politiques cohérentes qui arrivent à mettre tout le monde dans un sac pour des objectifs précis. Et là, c'est un défaut majeur, nous l'avions dit. C'est vraiment un défaut majeur. Et pour revenir un peu au social, parce que l'honorable Obama venait de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de miracle, moi je crois que c'est un défaut majeur, particulièrement pour un politique comme lui. C'est-à-dire, individuellement, il n'a pas d'ambition. Dire qu'il n'y a pas de miracle à faire, je crois que c'est un peu trop fort pour nous. Nous espérons que la société congolaise regorge des gens capables de transformer la société, des gens et qui peuvent faire une autopsie sévère de la situation sociale congolaise, de la situation en général, politique, sociale, économique, et de mettre des politiques cohérentes et surtout des âmes qu'il faut à la place qu'il faut. Et cela doit avoir un impact. Nous l'avions vu, l'histoire nous donne beaucoup d'exemples là-dessus, et même la Bible en parle. Donc, je ne pense pas franchement qu'on dise que parce que le gouvernement actuel n'a pas su transformer les choses ou changer les choses, cela implique parce que la société ne récolte pas les éléments qui peuvent amener à faire monter la société. Moi, je crois que ce n'est pas ça. Mais réduire le social lui-même, comme je voulais le dire d'ailleurs tout à l'heure, le social, c'est l'alpha et l'oméga de toutes les politiques. Les politiques ne sont que des moyens pour parvenir au social. Et si une politique est appliquée et qu'elle arrive à sortir des effets qui améliorent le social de la population, que ce sont des politiques mortes qu'il faut absolument changer. Ce sont des politiques mortes qu'il faut absolument changer. Et ça, nous le disons jour et nuit. Quand une politique n'aboutit pas, elle n'arrive pas à améliorer la situation, elle n'arrive pas à changer du bien en mieux ou du mal en bien, c'est une politique morte qu'il faut absolument transformer et changer. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, qu'on s'accroche à des politiques mortes et qu'on veut les vanter, alors qu'en réalité, ce sont des politiques qui n'apportent pas vraiment des changements dans le vécu quotidien de la population. Deuxième chose, c'est que le social, quand une politique parle du social ou l'amélioration du social, ne s'apprécie pas par rapport aux chiffres, ne s'apprécie pas par rapport au discours. Le social se vit, se constate. Vous voyez, dans l'assiette, ça se constate, on voit la population, quand on est sur le bord de la route, vous savez voir que cette population est pauvre, cette population n'a pas de salaire, cette population n'a pas de soucis. Et nous devons constater ça dans la rue. Les chiffres ont une intelligence, qui n'est pas l'intelligence pratique, voyez-vous. Donc nous avons besoin de voir des politiques cohérentes qui amènent la population à améliorer leur situation de vie, et la population, ce n'est pas une corporation, voyez-vous. La population, ce n'est pas une corporation. Là, nous devons vivre ça au niveau de l'ensemble de la population, au niveau du vécu quotidien de la population. Et temps, de toutes les couches de la population. Ça, c'est un élément vraiment essentiel. Dialogue entre Congolais, nous parlons ce soir du bilan d'exécution du budget 2010, tel que présenté par le Premier ministre au premier semestre. Nous allons prendre la deuxième partie de cette émission. Écoutons maintenant le Premier ministre Adolphe Mouzito s'exprimer sur les réalisations de son gouvernement sur le plan sécuritaire au 30 juin 2010.
De manière concrète, l'exécution du budget au premier semestre a permis au gouvernement de mener des actions ci après. Sur le plan sécuritaire et de la refondation de l'État. 1. La conduite des opérations de trappe de forces négatives, LRA et FDLR, dans les provinces orientales du Nord et du Sud Kivu, ainsi que des insurgés ennemis dans la province de l'Équateur. Ces opérations ont été un franc succès et les différentes forces négatives ont cessé depuis lors d'être un problème de défense pour l'État pour devenir aujourd'hui un problème de sécurité publique. Et l'intensification des actions visant à mettre fin aux forces de sécurité au nord-est du pays. 3. L'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales visant à désarmer de manière pacifique les ex-combattants ainsi que tous ceux qui détiennent par des erreurs les armes à feu. 4. La prise en charge et l'organisation des retours progressifs des réfugiés dans leurs pays respectifs. 5. La formation d'un bataillon commando au Maniema, œuvre de la coopération belge. 6. La formation de 20 autres bataillons grâce à la coopération multilatérale sous l'égide de la MONUC. 7. Le retour à l'avant-plan de notre pays sur la scène politique internationale avec la présidence de la SADC et de la CEAC.
Honorable Marc Nvoima, je rappelle que vous êtes député national Palou, élu de la ville de Kikwit au Bandundu, membre de la commission de relations extérieures à l'Assemblée nationale. Quel est votre commentaire par rapport au bilan sur le plan sécuritaire présenté par le Premier ministre?
Bon, c'est clair que les efforts ont été faits, et c'est clair que le Premier ministre a pris des dispositions de telle sorte que le point de vue de la sécurité trouve quelques solutions, mais seulement je reviens à une chose. Quel type d'homme représente le Congolais à travers tout ce que nous vivons? Quel est le type d'homme? Ceux qui nous voient de l'extérieur en train de chercher à résoudre nos problèmes, ils peuvent bien se poser la question, qu'est-ce qui manque à ce pays? Est-ce que ce sont les hommes? Non. Les hommes sont là. Les intellectuels, c'est par milliers qu'on forme les intellectuels. De tous les niveaux. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que ce sont les lois? Je pose encore la question. Qu'est-ce qui nous manque pour faire marcher, pour bien faire marcher les choses? Ce sont les hommes qui manquent? Ce sont les lois qui manquent? Qu'est-ce qui manque?
Et à votre avis?
Quel type d'homme représente à travers le monde et dans son propre pays. Bien sûr que le Premier ministre, bon, il a énuméré toute une série de mesures qui sont des mesures d'encadrement, mais je ne sais pas si le Congolais n'est pas impliqué lui-même, s'il n'a pas la capacité, s'il n'est pas, du point de vue de son du point de vue de sa formation, il n'a pas conscience que, comme on dit en éducation, le principal élément, c'est la personne éduquée, c'est l'éduqué. Toutes les mesures que vous pouvez prendre, si la personne ne se sent pas motivée, si elle n'est pas impliquée, eh bien, je crois qu'on arrive à des résultats qui ne sont pas des résultats positifs. Je pense qu'il y a de l'hypocrisie dans tout ce que nous sommes en train de vivre, dans tout ce que nous racontons. Alors, le Congolais doit se mettre en tête qu'il bafoue les lois. Les intellectuels, oui, on va prendre des mesures, mais je ne crois pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de miracle à faire devant tout ce qui se passe si le Congolais est un type pratiquement destructeur.
Aussi,
l'état d'esprit des Congolais, c'est un état destructeur.
Merci, honorable Bidiou. Décidément, l'honorable Nvoima n'a pas répondu hein, directement à ma question. Il y est allé par plusieurs voies. Quel est votre bilan à vous de l'aspect sécuritaire?
Je crois que l'aspect sécuritaire, il faut le voir globalement. Globalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce que le Premier ministre a indiqué. Il y a aussi la sécurité au niveau des quartiers, que ce soit à Kinshasa, à Kisangani, à Matadi ou ailleurs. Combien de gens rentrent encore à 1h, 2h du matin chez eux sans être inquiétés? Ça, c'est un problème. Deuxièmement, en ce qui concerne le bilan pour lequel le Premier ministre est en train de se féliciter, nous disons, ok, c'est bien, c'est bon, mais pourquoi cela est arrivé? Pourquoi il y a eu des situations à l'Équateur? Pourquoi il y a eu des situations à la province orientale? Pourquoi il y a eu des situations à l'Est d'une manière générale? Mais pour nous, c'est que le gouvernement n'a pas su anticiper. Le gouvernement est en train de subir. Le gouvernement préfère aller éteindre le feu au lieu d'anticiper qu'on puisse goûter le feu. C'est ça le problème. Le gouvernement n'utilise même pas les services de renseignement que la République a mis à sa disposition. Parce que lorsque les services de renseignement sont réellement mis à contribution, on n'arrive pas à ce dont on est en train de vivre aujourd'hui. Donc le gouvernement est responsable de ce qui se passe, de l'insécurité qui est causée, du fait qu'il n'anticipe pas, du fait qu'il ne donne pas les moyens suffisants, alors que nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous donnons tout ce que les services de renseignement demandent, tout ce que la police demande pour pouvoir fonctionner.
Ça veut dire que vous... combien c'est que vous donnez? Ça veut dire combien pour faire face à toute cette insécurité globale à laquelle vous faites allusion?
Nous donnons ce qui est demandé. Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre en tête, vous m'excuserez parce que j'aurais pu le faire. Mais ce qui est demandé, c'est que le gouvernement sollicite auprès de l'autorité budgétaire. L'autorité budgétaire donne. Donc, le gouvernement ne peut pas dire que ce que nous avons donné est insuffisant, parce que c'est lui qui est demandé. Vous ne pouvez pas demander 1 200 000 congolais à votre frère ou à votre grand-frère, et puis vous allez dire que non, ce que j'ai reçu est insuffisant. Alors que vous avez permis que ce que vous demandiez était insuffisant. Vous aurez pu demander ce dont vous aviez réellement besoin. Ça, c'est de un. De deux, notre problème aussi sur lequel, c'est que nous voulons que le gouvernement puisse nous éviter de faire de notre territoire national un Libanais. Donc, éviter la libanisation de notre territoire congolais, où les forces étrangères viennent se régler les comptes, où les forces étrangères viennent trouver des solutions aux problèmes qui se posent chez eux. On ne peut pas continuer à accepter ce genre de choses-là, parce que les conséquences sont et resteront toujours importantes, je dirais même désastreuses pour notre pays. Donc ça, c'est un point important. Il faudrait qu'à un moment donné, excusez-moi, que le gouvernement arrive à faire aussi le bilan de ces qu'ont été les conséquences des différentes forces qui sont venues s'affronter chez nous, parce que nous avons dit, nous n'avons jamais résolu de façon durable et satisfaisante le problème des FDLR, le problème de forces négatives qui sont venues de l'Ouganda, qui sont venues de la République centrafricaine, qui viennent du Soudan. Donc cette auto-satisfaction du gouvernement pour nous laisse encore un goût sans amertume.
Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. La question des forces négatives, d'après le Premier ministre, n'est plus un problème de défense, mais plutôt un problème de sécurité publique. Mais l'honorable Bidiou relève le faible montant alloué à la police, aux services de sécurité dans l'accomplissement de leurs tâches.
Ok. Disons que une priorité d'un gouvernement se lie au travers des affectations budgétaires. Donc, si dans les affectations budgétaires, les politiques ne reflètent pas cette affectation budgétaire, en ce moment-là, ça devient juste des chansons creuses. Mais ce que je veux dire, c'est que la sécurité, la défense de l'État, n'est que strictement l'affaire de l'armée, l'affaire de la police. Dans des vieilles civilisations, la défense est l'affaire de tout le monde, sans distinction. Ça veut dire qu'il y a une collaboration parfaite entre l'armée, les éléments de l'armée, les éléments de la police et la population, et entre-temps, il y a une coordination entre le gouvernement central et les structures de défense, c'est-à-dire la sécurité. Or, malheureusement, ici chez nous, il y a deux ruptures qui se manifestent à ce niveau-là. La population qui n'a pas une collaboration franche avec les structures de sécurité,
C'est-à-dire qu'il y a une première rupture, une première crise de confiance entre les deux. Et en deuxième lieu, comme l'honorable vient de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que de défense, la sécurité, ainsi de suite et tout ça, ils n'ont pas une coordination au niveau du gouvernement central. Il n'y a pas une coordination au niveau du gouvernement central. En ce moment-là, il y a une sorte de dysfonctionnement dans la structure de défense, et là, vous comprenez que l'ensemble des politiques qu'on met sur pied pour enrayer les forces négatives et tout ça, aboutissent à des échecs. Il y a des intérêts des individus qui s'immiscent dans cette cause, et ça devient un peu difficile. Ça, c'est la première chose. Mais là, ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que il faut mettre sur pied une idéologie sécuritaire. L'idéologie sécuritaire veut que toute la population soit orientée dans une même direction en ce qui concerne la sécurité du pays, en ce qui concerne la défense du territoire national.
Donc vous donnez raison à l'honorable Nzoma qui parlait d'un problème d'homme.
Oui, le problème d'homme, l'homme, quand les politiques parlent de l'homme, c'est d'abord le chef. C'est d'abord le chef du gouvernement, c'est d'abord le chef de l'État. Vous savez, l'impulsion de toute chose provient d'un centre. Et ce centre, c'est le gouvernement. Et si ce centre n'arrive pas à appliquer des mesures qui orientent, ou encore à édicter des mesures qui orientent vers des objectifs précis, à ce moment-là, il y a dispersion et il n'y a pas efficacité sous le terrain. Voyez-vous. Donc, nous comprenons que quand on parle des hommes, particulièrement dans la gestion des sociétés, ce sont des responsables politiques, en particulier, pour lesquels nous sommes en train de parler aujourd'hui.
Marc Mvama, honorable, là je m'adresse au professeur Mvama. Professeur, si vous étiez donné d'accorder une cote à l'action du gouvernement Mozito au premier semestre, ce serait laquelle?
D'abord, je commence par vous faire remarquer que personnellement, comme je l'ai dit, le contraire, le compatriote qui vient de parler tout à l'heure me donne raison, vous l'avez dit.
Alors, quant à la cote, c'est laquelle, sur 10?
Quant à la cote, c'est laquelle? Cette cote, c'est celle que je donnerai au peuple congolais aujourd'hui pour dire que nous avons une affaire de responsabilité partagée.
3, 4 sur 10?
Pourquoi 3, 4 sur 10?
Alors, c'est laquelle?
Ah ben, c'est une cote supérieure à la moyenne.
Oui,
c'est une cote, vous le savez. Hein, je donnerai 7, il fait des efforts, parce que vous voyez bien que partout dans tous les secteurs, il a présenté des éléments qui sont des éléments qui sont qualifiés aujourd'hui de... Bon, ceux qui l'ont qualifié, ils ont leur raison. On dit, bon, les chiffres, mais oui, lorsque c'est 1, ce n'est pas 2. Lorsque c'est 2, c'est au-dessus de 1. Lorsque c'est 4, c'est au-dessus de 3, et ainsi de suite.
Merci, honorable. Pouvez-vous conclure?
Le gouvernement fait les efforts qu'il faut, mais j'insiste sur le fait qu'il y a un problème dominant, un problème de société dans notre pays.
Merci, honorable.
Je ne suis pas loin de dire que nous devions penser à jeter un coup d'œil du côté de la métropole, du côté des alliés.
Merci, honorable. Merci, honorable. Vous donnez une cote au-dessus de la moyenne au Premier ministre. Honorable Bibiou, conclusion.
Eh bien, merci. Comme je disais tout à l'heure, en ce qui concerne la sécurité du citoyen, nous pensons que le gouvernement n'a pas une politique sécuritaire capable à rassurer la sécurité du citoyen. Et que pour nous, c'est un échec patent. Un échec patent parce que le peuple congolais ne retrouve pas son compte. Donc, il est vraiment en dessous.
Une cote sur 10?
Non, mais donnons-nous peut-être 3,5.
Voilà. Joseph Kongolo, votre conclusion.
Je dis que cet échec, à dire irrémédiable, ne saurait être compensé par l'institution. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le chef qui doit donner à l'institution sa valeur et sa force. C'est le chef qui doit donner de la valeur à l'institution au travers des politiques cohérentes, au travers des politiques efficaces sur le terrain, qui se constatent.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de votre attention. Merci à l'équipe rédactionnelle de Dialogue entre Congolais. Je cite Guy Maté, Kevin Couté, Samuel Tessac et le superviseur Martin Sebujangwe. Mise en onde, Alain Goy. Présentation, Alain Hirong Mouchige. Au revoir. Thank you.
Oh, God, oh, God, oh, God.